Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une heure en série, épisode 26. Toujours la première saison. L'émission, vous commencez à le savoir, qui chaque semaine décrypte et analyse l'actualité des séries télé et vous garantit des soirées télé 100% réussies. C'est aussi ça notre mission de service public. Cette semaine, dans une heure en série, tueur en série, justement, et face à face viril dans The Reckoning sur 13e rue, femme en détresse et complot international dans Mirage sur France 2, et enfin pouvoir de la presse et tragédie familiale avec Mother, Father and Son sur Stars Play.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Beau programme et belle table autour de moi. Je suis ravi d'accueillir cette semaine Isabelle Danel de bandeaffaires.fr, Charlotte Lipinska qui vient de rejoindre mes côtés cinéma, l'équipe de Télématin.
Bonsoir Xavier.
Bonsoir Charlotte. Et puis bien sûr Benoît Lagan, vous êtes donc désormais collègue, doublement collègue. Benoît Lagan qui est à Télématin mais qui est également dans le 5-7 le vendredi de Mathilde Munoz. Bonjour Benoît.
Salut à tous et à toutes.
Je vous rappelle que vous pouvez voter également pour vos séries préférées, une française et une non française. Encore une fois, je le précise, pas besoin qu'elle soit américaine. Vous avez droit à toutes les nationalités tant qu'elle n'est pas française. Au cours du mois de mars, nous vous révélerons ce fameux top 10 des auditeurs. Mais en attendant, premier débat, nous allons parler de Reckoning, qui est une mini-série australienne en 10 épisodes, disponible sur 13e rue depuis le 9 février. Alors, je tiens à le préciser, nous n'avons vu que les trois premiers épisodes de cette série à notre grande dame, parce que du coup, effectivement, il est un petit peu difficile d'interpréter la fin de cette série. Mais en tout cas, voilà, je tenais à être honnête. Trois épisodes donc de Reckoning sur 13e rue.
Je lutte depuis tellement longtemps pour devenir un homme meilleur, mais j'échoue à chaque fois. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, ça fait du mal aux personnes qui comptent le plus pour moi. Dieu vous pardonnera tout cela. Ce n'est pas son pardon que je recherche. S'il y a vraiment un Dieu, tout ce que je souhaite, c'est qu'il veuille bien protéger ma famille de ce que j'ai fait. Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il le fera?
La découverte du corps d'une jeune lycéenne dont le tatouage a été prélevé par le tueur relance une enquête que l'on croyait close, celle d'un serial killer responsable quelques années plus tôt de la mort de plusieurs jeunes femmes. Le détective qui était alors sur l'enquête essaie de reprendre celle-ci, mais ses précédents agissements, il avait entre autres malmené un des suspects, son obsession maladive pour l'affaire et, il faut quand même le dire, son instabilité psychologique décourage sa hiérarchie de lui faire à nouveau confiance. Face à lui, un conseiller d'orientation aussi sympathique en apparence que torturé et ambigu dans l'intimité que le récit ne tarde pas à désigner comme le coupable idéal, mais la solution est-elle aussi simple et limpide, point d'interrogation. Le face-à-face tendu et anxiogène entre deux pères de famille au passé trouble et présent inquiétant, prêts à tout pour protéger les faux-semblants de leur fort peu tranquille vie de famille. Une série créée par l'Australien David Hubbard avec Aden Young, qu'on avait pu voir dans The Code et Rectify, et Sam Trammell, qu'on avait pu voir dans True Blood et This Is Us. Charlotte, Reckoning. C'est quoi d'ailleurs la traduction de Reckoning?
Alors, c'est
oui,
Isabelle,
c'est Isabelle
qui, nous
qui nous l'a soufflé avant l'émission.
À l'instant,
allez, soyons
voilà, puisque moi, un peu bêtement, j'ai fait un Google Translate, je suis tombée sur calcul. Bon,
j'ai
en voyant la série,
que vous, c'est pour
je
ça.
Me disais, mais où est le calcul dans tout ça? Et heureusement, Isabelle nous a éclairé, puisque Reckoning, c'est le jugement, en l'occurrence, le jugement dernier.
She's bilingual. Preferably bilingual.
Non, pas dernier en l'occurrence, jugement tout court.
Ah, hein, le ouais. Jugement tout court. Bon, alors merci Isabelle. Ben, c'est intéressant et je regrette d'autant plus qu'on ait vu que 3 épisodes sur 10, parce que je trouve que ça part vraiment bien. Et même si, effectivement, il y a une sorte de coupable qui nous a un peu désigné dès le début, on se doute qu'en développant la série sur 10 épisodes, il va bien se passer quelque chose. Parce que si on arrive au même endroit que là où on part, ça sera un petit peu décevant. Il y a ce canevas très classique d'une affaire qui est réactivée avec des nouveaux meurtres qui arrivent et donc le passé de tous ces protagonistes qui va se réveiller. Mais c'est pas que thriller. Moi, je trouve que la série est beaucoup plus intéressante dans son aspect psychologique. On est vraiment dans un drame psychologique de ces deux hommes qu'on voit en parallèle. Donc vous le disiez, Xavier, d'un côté, ce flic au passé un peu trouble, de l'autre, ce conseiller d'orientation qui a l'air d'un bon père de famille. Mais enfin, il est quand même pas net, hein. Il y a des zones d'ombre et à nous, téléspectateurs, sont montrées un petit peu ces zones-là. Et le face-à-face entre ces deux hommes, je le trouve très troublant. Et il me semble que dans la narration, il y a quelque chose d'assez rare dans les séries, à savoir une épaisseur donnée au personnage qui arrive petit à petit. Rien ne nous est donné d'emblée dès le premier épisode, cette fameuse exposition des personnages où on nous dirait tout dès le début. Là, on découvre petit à petit, et autant sur les personnages féminins qui sont les épouses de ces hommes, ou alors les mères des pauvres adolescentes assassinées, il y a une épaisseur qui se met en branle, si je puis dire, petit à petit, et qui, moi, a vraiment capté mon attention. Alors pour l'instant, à 3 épisodes sur 10, c'est un peu tôt pour que je me fasse une idée complète de la série, mais je trouve ça très efficace, extrêmement bien joué. Les acteurs sont vraiment formidables, Sam Tramwell et Adam Young, donc vraiment, je recommande, moi, ce Reckoning.
Je suis assez d'accord avec vous. Alors, il nous manque effectivement 7 épisodes, mais déjà, au bout de 3, on est pris, il y a une ambiance, il y a une mise en scène, Benoît.
Et c'est déjà pas mal, parce que toutes les séries ne nous harponnent pas comme ça en seulement 3 épisodes.
Vous voulez parler peut-être d'une série qu'on aura tout à l'heure au cours du programme?
C'est possible.
Un petit effet de bande-annonce comme ça. Bon, Benoît, Reckoning.
Alors, je suis assez d'accord avec Charlotte, avec un petit point quand même qui, moi, me travaille après avoir vu ces épisodes, c'est que je me demande toujours pourquoi il faut qu'on nous invente des histoires de serial killer et ces histoires voilà atroces pour nous raconter finalement le mal-être de ces hommes et en l'occurrence là aussi de ces familles parce que finalement moi je me serais bien passé de l'enquête pour juste être avec ces hommes. C'est ce qui était la force un petit peu aussi de Rectify avec le même comédien où il sortait de prison et donc du coup on
Adam
était
Young.
Adam Young, on était avec lui et on apprenait à revivre avec lui, donc il y avait quelque chose d'assez touchant là-dedans et on retrouve ça dans cette série. Tout le reste, je trouve assez classique, au fond. On a l'impression d'être dans un Stephen King.
C'est très classique, mais très efficace.
Oui, très efficace, très classique, mais très, très, très...
Boudez pas votre plaisir, quand même,
non,
Benoît.
Oui, mais justement, on a vu que 3 épisodes, ce que la chaîne nous a transmis. Et je me posais la question que parmi la somme de séries, là, que j'ai regardé, est-ce que j'allais de par moi-même regarder la suite sur la chaîne, en l'occurrence 13e rue? Et j'ai peur de ne pas accrocher assez, même si ces personnages sont effectivement intrigants, attachants, et qu'on suppose des choses et qu'on imagine bien qu'ils vont nous surprendre sur la trajectoire de ces personnages. J'ai bien aimé, j'aimerais en voir plus, le personnage de la jeune fille qui a des faux airs de Neve Campbell, Millie Alcock, je ne sais pas si vous voyez la fille du flic, hein, je crois.
Du flic, absolument.
Et je me dis,
en rébellion,
voilà,
on va dire.
Et je me dis qu'il y a peut-être des choses aussi avec les personnages féminins que la série va travailler au fil des épisodes.
Mais les épouses et les enfants, vous avez raison de le préciser, ont une importance réelle dans la dramaturgie.
Ils existent déjà.
Voilà. Le fils du professeur, enfin en tout cas celui qu'on nous désigne comme étant le coupable, a lui également un passé récent, trouble, un peu inquiétant et tout ça. Voilà. Côté mise en scène, on est un tout petit peu quand même dans la noirceur qui est coutume maintenant depuis True Detectives et Outsider, l'adaptation de Stephen King. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On n'est pas dans une petite ville ensoleillée. Isabelle, vous qui êtes sensible à la mise en scène autant qu'au récit, est-ce que Reckoning, pour toutes ces raisons, vous a interpellé, intrigué ou est-ce qu'au contraire, c'est une série comme le supputait un peu Benoît, une de plus, une pour rien, une encore?
J'ai du mal à me prononcer, effectivement, parce que seulement 3 épisodes sur 10, c'est vraiment peu. Je suis d'accord avec les qualités qu'on a soulignées et que j'ai vues et qui m'ont emballé et qui m'ont donné envie, et j'aurais vraiment voulu qu'on puisse parler sur pièce en ayant tout vu. Il y a quand même, moi, un truc que je trouve très très étonnant dans cette mise en scène, c'est que, je suis d'accord avec Benoît, ça ressemble quand même à beaucoup de choses qu'on a vues. C'est-à-dire que c'est des mises en scène dès qu'il y a serial killer et maintenant dès qu'il y a confusion et dès qu'il y a un peu fabrique du monstre, on est quand même beaucoup dans les glissements de terrain de l'un à l'autre, une image très très sombre, etc. Et du coup, moi, je suis pas totalement convaincue. Je trouve ça quand même un peu appuyé dans la volonté de nous perdre et de nous emmener dans des zones d'ombre. Alors après, le côté la fabrique du monstre, c'est intéressant à plus d'un titre parce qu'il y a aussi dans les enfants, et moi je trouve qu'ils sont déjà très présent. Il y a aussi un petit garçon qui est le fils du flic, qui est autiste, visiblement, et cet enfant, à un moment donné, son père a une conversation avec lui en lui disant, le monstre qui est en toi et qui te fait faire des choses mal, parce que ce petit garçon a un problème de contact et donc il s'énerve contre sa sœur et lui casse le doigt à un moment donné, et il lui dit, c'est toi qui décides. Et en fait, il y a beaucoup de phrases de ce style-là pour les adultes aussi, le coach, le conseiller d'orientation, c'est pas bien ce qu'il est d'ailleurs, il est à la fois les deux parce qu'il est coach sportif.
Ah, il est multifonction, hein,
multifonction
dans le lycée,
voilà.
Je crois qu'il fait le ménage, on peut partir.
Le coach a aussi des discussions là-dessus sur comment endormir le monstre en soi, etc.
Canaliser les pulsions.
Il prend des petites fioles à quelqu'un, etc. Enfin, c'est assez troublant. Et le flic lui-même a aussi ce questionnement-là. Donc, je trouve quand même que là, sur les trois épisodes, c'est tout ça est quand même bien appuyé. Je suis pas totalement convaincue par cette mise en scène. Il y a une autre chose que je trouve très étonnante, c'est que les décors, c'est tourné donc entièrement en Australie et c'est censé être la Californie. Et ils ont raté leur coup parce que je trouve que ça ne ressemble pas à la Californie. Mais en même temps, moi, c'est ce que je trouve de réussi dans la série, c'est que du coup, ces décors dont on a quand même une habitude assez certaine dans les séries de la Californie qu'on nous montre à la télévision ou dans les films, eh ben là, justement, je trouve que l'intérêt, c'est cette petite ville qu'on ne reconnaît pas et qui est vraiment intéressante, quoi. Donc voilà, très curieusement, l'erreur qu'ils ont faite, moi, me plaît, quoi.
Bon, on est à 30% de la série et on est quand même à un bon 60% d'enthousiasme. Allez, soyons honnêtes, oui. Quand même. On vous invite à découvrir, nous aussi d'ailleurs, la fin de Reckoning, diffusée donc depuis le 9 février sur 13e rue. Every time I see your grave, I can't help but think how I didn't know that you own the drink. Overtime du groupe 100% féminin US Girl. Le prochain album sortira le 6 mars. Et moi, je dois avouer, quand même cédé à cette petite, voilà, pop, jazzy, groove, sua, féministe, c'est tout ce qu'on aime.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment d'un petit conseil littéraire et je vous recommande de découvrir L'usurpateur de Bjorn Lyr. Horst, paru chez Folio Policier, roman qui en 2016 avait remporté le prix du meilleur polar scandinave. Un conseil d'ailleurs à double emploi, puisque l'adaptation des romans de Jørn Lier Horst, là je fais attention quand même, hein, est actuellement diffusée sur Polar Plus chez nous en France, sous le titre Wisting. Wisting, c'est justement le nom de ce policier taciturne et méticuleux, digne héritier d'un Wallander, évidemment, que tout le monde connaît. Au début du roman, on découvre en plein hiver le corps d'un homme dans une forêt de sapins. Il semblerait être là depuis l'été. Qui est-il ? Aucun indice, à l'exception d'une pochette plastique retrouvée dans sa poche et qui mène notre enquêteur sur la piste d'un serial killer américain qui n'a jamais été arrêté. En parallèle de cette enquête, la fille de Wisting, journaliste, décide d'écrire un article sur un homme retrouvé mort chez lui plusieurs mois après son décès, apparemment de mort naturelle, mais dont l'absence n'avait jamais inquiété ses voisins. De mort apparemment sans rapport, vous entendez le point d'interrogation évidemment que j'ai inscrit dans ce résumé. Le talent de Jørn Lier Horst, c'est son écriture factuelle. Aucune voix intérieure, aucun flashback, il reste uniquement focalisé sur le factuel et sur les agissements des deux personnages principaux. Il narre leur investigation respective dans les moindres détails avec une précision clinique. Du coup, le lecteur n'a pas cette longueur d'avance qui est parfois un peu épuisante dans les romans policiers. On suit vraiment l'enquête au jour le jour, minute par minute, et on est ainsi pris dans l'engrenage délicieux, pour ceux qui, comme moi, adorent les polars, d'une mécanique qui ne vous lâche pas jusqu'à la toute dernière page. Secret, vous le reconnaîtrez, absolu de tout bon polar. L'usurpateur de Jørn Lier Horst chez Folio Policier, et encore une fois, l'adaptation sur Polar Plus sous le titre de Wisting. Et vous êtes bien sur France Inter dans Une Heure en Série avec Isabelle, Charlotte et Benoît. Bon, c'est des copains maintenant, je vais pas rappeler le nom de famille à chaque fois quand même. Et voici maintenant le deuxième débat. Nous avons peut-être à un moment précédemment évoqué cette série, quand même sans en dire le titre. On va parler de Mirage, une série en 6 épisodes diffusée depuis le 17 février sur France 2 et donc disponible également en replay.
Écoute, tu vas jamais me croire. J'ai vu Gabriel, ici à Abu Dhabi, dans un bar de la Sunset Tower.
Qu'est-ce que tu racontes ? Arrête. Claire, il est mort.
Gabriel ! Il faut que tu saches à quel point cette mission est dangereuse. En fait, leur logiciel espion devait leur permettre de contourner ton système de sauvegarde et de saboter la sentinelle.
Si on libère le virus trop tôt, ça risque de mettre en péril toute l'opération.
Mais t'es qui, Gabriel ? Et pour qui tu bosses, en fait ?
Décembre 2004, Claire réchappe au tsunami qui s'abat sur le sud de la Thaïlande. En revanche, Gabriel, son mari, fait partie des victimes. 15 ans plus tard, elle débarque à Abu Dhabi. C'est l'heure des secondes chances. Elle a refait sa vie avec un chef qui va ouvrir un restaurant dans la luxueuse capitale des Émirats arabes. Et cet ingénieur nucléaire dont la carrière s'était brutalement interrompue après l'explosion d'une centrale dont elle était en charge a enfin retrouvé un boulot. Tout va donc pour le mieux lorsqu'un soir, elle est persuadée d'avoir aperçu Gabriel, cet époux qu'elle croyait mort, dans les couloirs d'un hôtel 25 étoiles. Oui, à Abu Dhabi, il n'y a pas moins, hein, de toute façon. Tiens, je veux dire. Fantasme ou réalité. En essayant de retrouver son ex-conjoint, Claire va se retrouver au cœur d'une conspiration terroriste dont elle est à la fois le pion principal et la première victime. Distribution internationale, Marie-Josée Croze, Clive Standen, Philippine Leroy-Beaulieu, Grégory Fitoussi, une série créée par Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau et réalisée par Louis Choquette, réalisateur de la série Philharmania. Alors, on se posait la question de savoir si on continuait les séries au bout de 2-3 épisodes, comme Wiconic, ou si au contraire, on avait tendance à abdiquer, à baisser un tout petit peu les bras. Benoît, est-ce que vous avez eu le courage de regarder Mirage jusqu'au bout ?
J'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout.
Soulignons le mot courage quand même.
Pour dire qu'à partir du 4e épisode, ça commence à s'intensifier.
Oui. Voilà, il en reste deux. Donc, c'est quand ils veulent.
Et c'est tout le problème de Mirage. C'est-à-dire qu'au départ, on a envie d'y croire à ce projet.
Entièrement d'accord.
D'abord, on a envie d'y croire parce que l'histoire, elle est plutôt pas mal, moi je trouve. L'idée de créer une série d'espionnage un petit peu à la Deux Fonds la Paire, mais en dramatique. C'est-à-dire où il y a
Deux Fonds la Paire, c'est ridicule. Mais rappelons quand même aux jeunes auditeurs, puisque nous avons des gens quand même de moins de 75 ans qui nous écoutent.
Les Deux Fonds la Paire, c'est l'histoire de cette femme au foyer, cette mère de deux enfants, mère célibataire, qui se retrouve propulsée dans le monde de l'espionnage à un moment donné un peu par accident. Et c'est Kate Jackson qui jouait Sabrina dans Les Trolls de Dame.
J'attendais que vous citiez cette immense comédienne.
Qui joue le rôle de ce personnage. Bref, donc, moi j'étais vraiment preneur de cette idée. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans quelque chose de très proche de l'univers à la Largo Winch. Parce qu'il y a quelque chose de l'espionnage façon BD un petit peu, mais il y a cette description assez réaliste ou volontairement réaliste de cette vie professionnelle de cette femme qui après la Thaïlande arrive à Abu Dhabi. Et le problème c'est que on part nulle part avec tout ça. On avance ni dans la BD à 100%, ni dans la série romantique à 100%, parce que pourquoi pas, hein, on aurait pu l'accepter. Donc c'est ni le Bureau des légendes, ni The Americans, ni Largo Winch, ni Jack Ryan. Alors que si ça avait été juste un pur objet pour le plaisir coupable ou pas coupable, moi j'ai pas de plaisir coupable, mais un pur plaisir comme ça, alors on serait parti et dedans. Et finalement, l'action et la tension qui manquent un peu dans les premiers épisodes commencent un petit peu à émerger au bout du quatrième épisode, mais c'est peut-être un peu trop tard. Je ne sais pas si on aura tenu jusque-là.
Alors, Isabelle Danel, Mirage, avez-vous été sensible à ce Mirage ? Alors, on va quand même dire une chose, c'est qu'on sent bien qu'Abu Dhabi a payé un tout petit peu quand même pour la production, puisque chaque épisode se passe dans un lieu très phare, on va dire, de la ville. Il y a un petit côté quand même promotionnel.
Il y a eu un gros tournage au Maroc.
Hein. Office du tourisme, oui, enfin, on voit bien Abu Dhabi, les beaux immeubles, la piste de voiture, enfin voilà, on sent bien quand même qu'ils ont mis un petit peu d'argent pour assurer la promotion de leur ville.
Isabelle. En même temps, quand on regarde les coproducteurs, il y a un monde fou, il y a le Canada, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, mais j'ai pas vu les Émirats, donc j'ai un petit doute quand même. Mais le problème de ça, c'est que les décors sont absolument somptueux, fastueux, ça va de yacht en hôtel 25 étoiles, comme vous avez dit, mais que tout ça est très très décoratif au sens le plus mauvais du terme, c'est-à-dire que c'est de la carte postale.
Par c'est exemple, ça, il y a un côté office du tourisme.
On va au Louvre deux fois. Mais du Louvre d'Abu Dhabi, on ne voit que ce qu'on en sait déjà si on n'y est jamais allé, c'est-à-dire les moucharabiés très beaux, les jeux de lumière dans les couloirs, etc. On n'en voit rien d'autre et du coup, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est de la carte postale. Et le problème, c'est que toute la série est de cet ordre-là, y compris en écriture. Alors moi, j'aimais beaucoup l'idée. Et puis bon, quand la France se met à faire des coproductions et à avoir comme ça des volontés de faire des choses un peu ambitieuses, je trouve ça formidable. Mais le problème, c'est qu'on est un tout petit peu loin du compte, c'est-à-dire que les trois premiers épisodes, effectivement, n'importe quelle série américaine, norvégienne, etc., est mieux fabriquée que ça, quoi. Et dans l'écriture, il y a un vrai problème de personnages, c'est-à-dire qu'au-delà des personnages principaux qui sont identifiés et qui sont assez monolithiques, il y a des personnages secondaires qui ne servent à rien d'autre qu'à faire avancer d'un point A à un point B. Alors, bon, il y a un gag que je ne vais pas me lasser de faire, c'est qu'il y a un chauffeur de taxi, en l'occurrence, donc effectivement, il l'emmène d'un point A à un point B, mais il n'existe pas. Pourtant, il y a sa femme, pourtant, il y a ses enfants et il n'existe jamais. Cette femme
oui,
a un enfant.
Oui, il y a une population pauvre qui, quand même, bosse énormément pour survivre et on n'en fait rien.
On n'en fait rien. Cette femme a un enfant qui s'appelle Zach, qui se fait des copains qui sont les enfants d'un émir. Ils ne sont que couleur locale. Tout est comme ça. Et du coup, effectivement, je suis d'accord, à partir du quatrième épisode, c'est un peu mieux et en même temps, c'est un peu tard.
Charlotte Lipinska.
Moi, le pitch, je le trouve très alléchant. Ce que vous résumiez Xavier en début, effectivement, avoir perdu l'amour de sa vie, 15 ans plus tard, le voir comme une apparition comme ça dans un hall d'hôtel et se mettre à le suivre pour s'apercevoir qu'il est agent secret, là je ne révèle rien puisqu'on
non,
le sait
dès,
voilà, on le sait dès le début, mais je trouve ce pitch vraiment super. Quelle ne fut pas ma déception, c'est-à-dire que vraiment quand on regarde tout attentivement, c'est extrêmement mal dialogué et c'est quasiment la moitié des scènes m'ont semblé invraisemblables, soit par la situation, soit par des réflexes psychologiques. Quoi. Il y a des choses qui sont... C'est comme des coups de butoir du scénario pour faire avancer la narration de manière extrêmement artificielle, mais finalement, ce qu'on gagne peu à peu en intensité de narration, on le perd complètement en crédibilité. Donc, c'est, à mon sens, pas du tout un bon calcul. Et par ailleurs, on pourrait quand même avoir peur pour cette femme qui va mettre sa famille en péril, en l'occurrence son fils ou même son mari, et on n'a jamais peur, il n'y a pas de tension. Alors effectivement, les deux derniers épisodes, ça va un peu vite, il y a des courses-poursuites et tout, donc on ne s'ennuie pas vraiment, on voit le train passer, mais je regrette son fils, enfin il se passe des trucs terribles au sein de sa famille, mais est-ce qu'on a peur pour elle ou pour ses proches? Absolument jamais. Donc il y a pour moi là un vrai problème de prise émotionnelle sur le téléspectateur, et puis au bout d'un moment, bah, tout le monde ment à tout le monde, donc on ne sait même plus qui dit la vérité, et puis bon, bah, après tout, on s'en fout un peu, même s'il y a une ouverture sur la saison 2, on voit bien là où ça ira. Mais je rebondis aussi sur ce que disait Isabelle sur les personnages secondaires. Le gag étant qu'il y a même des acteurs français qu'on connaît, identifiés comme un petit peu connus, qui apparaissent dans 5 ou 6 scènes, on n'entend jamais le son de leur voix, quoi. Au final, ils ne font que de la figuration. On voit les scènes coupées au montage de manière absolument flagrante et on se dit, bon, bah ok, ils ont tourné à Abu Dhabi, mais ils parlent même pas, quoi. C'est dommage.
Je crois que la vérité, en revanche, je vous l'avais dit, concernant Mira, qui passe donc actuellement sur France 2 depuis le 17 février et que vous pouvez voir ou pas en replay sur la chaîne.
Oye Tommy, dame el fuego, papi.
Y'en a qui m'aiment pour mes prouesses, y'en a qui m'aiment pour mes chansons. Si tu négliges l'amour pour ta mère en dépit d'un inconnu, remets-toi en question. Je fais souvent les choses sur un coup de tête, parfois le silence faut l'écouter. Mes semblables m'ont dégoûté, mon miroir ne ment jamais, il a toujours raison. Les combats, les victoires, les leçons, je les compte plus. Le karma, les coups bas, être son, une habitude intensément faut vivre. C'est trop facile de le dire, derrière quelques sourires je me cache. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant, faut j'ai mal. Je fais semblant, faut j'ai mal. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant, faut j'ai mal. Je fais semblant, faut j'ai mal. Moi je sais que je suis un bâtard, mais les gens sont bavards. Critique la monnaie tout en enviant le Qatar. Et hey, la monnaie, la monnaie, la monnaie. Mais quand tu seras mort, elle sera plus là pour t'aider. Tu fais le bilan, je suis mort il y a longtemps. C'est fatigant de se voir dans 10 ans. Je vais même pas y penser, même pas y songer. Pourquoi espérer en des choses qui vont changer, hey. Les combats, les victoires, les leçons, je les compte plus. Le karma, les coups bas, être brosson, une habitude intensément faut vivre. C'est trop facile de le dire, derrière quelques sourires je me cache. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant, faut j'ai mal. Je fais semblant, faut j'ai mal. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant, faut j'ai mal. Je fais semblant, faut j'ai mal. Je me sens ivre sans même avoir bu une goutte de vodka. Le temps défile et lentement je sens mon âme qui s'en va. Je suis en vie, pourquoi me contenter de ce que je n'ai pas? Oh, laisse le temps parler, oh, laisse le temps parler. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant, faut j'ai mal. Je fais semblant, faut j'ai mal. J'ai un peu peur de sombrer. J'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant, au fond j'ai mal. Je fais semblant, au fond j'ai mal.
Sombrer, le nouveau titre de Tew the Kid, phénomène du moment. C'est un garçon originaire de Madagascar. Moi, j'aime bien cette musique qui chaloupe avec grâce entre le R&B et le soul. Très beau texte. Si on les écoute avec un peu d'attention, il y a vraiment un sens du mot. Qu'est-ce qui vous fait rire, Isabelle Danel? Là, vous êtes pliée en deux.
Je me dis juste qu'on n'a pas écouté parce qu'on a parlé de la série pendant qu'on passait la chanson.
Ah bah ça, c'est
de
votre faute. Hein. La prochaine fois, vous ferez votre boulot. Voilà, Tew the Kid sera en tournée en mars à Marseille, à Roubaix, à Bordeaux, le 22 avril au Trianon à Paris et le lendemain au Printemps de Bourges.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment de l'effet miroir. Et pour cet effet miroir, exceptionnellement, vous vous êtes délocalisé, cher Benoît Lagan. Mercredi, vous étiez à Lille pour la conférence de presse de Série Mania, le grand festival dédié aux séries et qui aura lieu la dernière semaine de mars.
C'est ça, dans un mois, Série Mania ouvre ses portes. Chaque année, depuis plusieurs années maintenant, le Festival International Série Mania tend un miroir sur la production de séries dans le monde entier et les séries en question tendent elles-mêmes un miroir sur leur société. Du coup, je me suis dit que pour une fois, j'allais me taire et que j'allais tendre mon micro.
Je n'ai rien demandé, mais...
j'allais tendre mon micro à Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne, donc directrice générale et directeur artistique du festival, pour savoir ce que cette année, Série Mania allait nous montrer des séries et du monde.
Nous les écoutons. Isabelle, un peu d'attention, s'il vous plaît.
Je pense qu'il y a deux effets, en fait, cette année, à travers les 483 séries que nous avons observées. Alors, il y a très clairement un effet post-MeToo. Je crois qu'on n'a pas mesuré à quel point la déflagration MeToo avait pu inspirer ou changer l'état d'esprit des scénaristes à travers le monde. Ce qui est très intéressant à travers le panorama international que l'on montre, c'est que les réponses sont très diverses. Elles émanent souvent de femmes. Et de par le monde, on ne fait pas la même analyse. Au Japon, avec la série Behind the Door, la scénariste nous dit « Rien n'a changé, les hommes sont toujours les mêmes et les femmes sont toujours à leur service. » Au Chili, on s'interroge en revanche de manière beaucoup plus complexe sur les rapports hommes-femmes à travers de jeunes lycéennes qui se mettent en grève et bloquent leur lycée pour obtenir le départ de leur prof de théâtre qui lui répond « Mais c'est du théâtre, c'est pousser quelqu'un dans ses retranchements » pendant que dans la même série, une bande d'hommes adultes se reconstituent en ce qu'ils appellent une meute pour remettre les femmes à ce qu'ils estiment leur place, c'est-à-dire objet sexuel. La troisième série, qui est bien évidemment vient d'Angleterre, parce que nos amis anglais osent tout, c'est un personnage central d'actrice porno, mais qui est à la fois une femme aimante, une mère qui s'occupe de ses enfants, qui regarde les devoirs et qui l'assume.
Donc ça, c'est pour le côté post-MeToo et donc une dimension politique. Alors ça, c'est pour vous, Frédéric.
Oui. Non, et oui, il y a énormément de séries dans l'arène politique. D'ailleurs, une comédie, Parlement qui entre dans les coulisses de l'Union européenne par le biais de la satire. Il y a une série islandaise sur un premier ministre islandais. On sait que c'est toujours un laboratoire, l'Islande, pour la politique, où il va lancer l'idée d'une politique participative assez nouvelle. Et puis, il y a ces inquiétudes sur la montée des populismes qui sont très reflétées dans beaucoup de séries, qu'elles soient contemporaines. On a une série qui s'appelle Cold Courage, où il y a une sorte de groupe qui prône l'autojustice contre le néo-fascisme de certains partis d'extrême droite, mais aussi beaucoup de retours sur, par exemple, la figure des nazis. Ça, c'est très frappant, avec des séries de Seconde Guerre mondiale, alors à la fois reconstitution réaliste, comme World on Fire, ou Uchronie, comme la dernière série de David Simon, qui imagine que Charles Lindbergh, sympathisant nazi, aurait pris le pouvoir en prenant la place de Roosevelt, en fait.
Et les Français, là, vous avez l'impression que ça y est, ils vont plus frontalement sur les sujets de société. Ils l'ont longtemps fait dans les années 70-80, puis ça s'est un peu calmé. Non, pas encore complètement.
On a une sélection française d'une très grande qualité, peut-être comme nous ne l'avions encore jamais eu, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir deux séries françaises en compétition internationale. Malheureusement, ou peut-être que voilà, nous nous intéressons à d'autres sujets, l'analyse du monde extérieur n'est pas encore une tendance majeure des séries françaises, même si Cheyenne et Lola ou Dérapage sont peut-être deux contre-exemples. Donc on y vient, mais c'est surtout une très très belle sélection.
Moi j'ai été frappé par la série Dérapage, adapté du roman de Pierre Lemaitre, Cadre Noir, parce que c'est vrai que la colère du personnage de chômeur de 57 ans, interprété par Cantona, il est quand même, moi je trouve, un écho très fort de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Un sentiment de déclassement, d'humiliation et d'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Cheyenne et Lola, autre série française, également l'extrait qu'on a diffusé à la conférence de presse sur la honte d'être pauvre et le fait qu'on l'encourage à le cacher est quand même très symptomatique de quelque chose qui se passe en ce moment.
Voilà, c'était donc l'effet miroir de Benoît Lagan, presque sans Benoît Lagan, et que vous pouvez bien évidemment réécouter en podcast sur le site de l'émission Une Heure en Série. C'est l'heure du troisième débat et c'est peut-être quand même la série la plus convaincante de la semaine, en tout cas à mon sens, mais vous allez me dire. Nous allons parler de Mother, Father, Fun sur Starzplay, qui est une série britannique. Max possède l'un des plus grands et des plus influents empires de presse du monde. Il peut faire et défaire les carrières, éliminer ses opposants et règne sur sa famille comme sur ses employés avec la même autocratie. Sa femme est partie depuis longtemps, laissant son fils aux mains de cet ogre qui en a fait son héritier putatif, jusqu'au jour où ce dernier, saturé de drogue et d'alcool, fait un accident vasculaire. Un drame qui va fissurer les coutures impeccables du costume de Max et achever de révéler l'homme qu'il est réellement. Un homme qui passe son temps à trahir les autres, les femmes et les hommes qui travaillent pour lui, ses lecteurs, sa famille et même l'actuel premier ministre britannique qui est à la fois noir et musulman. Un homme qu'il avait pourtant soutenu précédemment et qu'il va abandonner en pleine campagne de réélection pour lui préférer sa toute nouvelle et très inquiétante rivale, une blonde nationaliste extrémiste.
Are you here to pick a prime minister or deal with your son?
A rival paper trying to embarrass our family.
I'm not embarrassed.
Why do you want to be the most powerful person in the country?
Prime minister. She's dangerous.
Dangerous to you?
interceptor data. Act 4 is now. We go for the top.
Why do you make it so hard?
Your son's brain suffered significant damage. Some families talk of loved ones seeming different, indiscreet when they were tactful.
Indiscreet? What do you mean by that?
Bref, vous l'avez compris, c'est Shakespeare au royaume très putride de la presse, de la politique et des scandales qu'on connaît bien, hein, évidemment, à France Inter. Mis à part peut-être une ou deux intrigues satellites que je dirais rien d'inutile, c'est sombre, c'est brillant, c'est vertigineux, c'est créé et écrit par Tom Robb Smith, qui est un auteur de romans policiers, on lui donne entre autres Enfant 44, qui avait un certain succès. Et pour la télévision, il avait écrit The Assassination of Gianni Versace, sur l'assassinat donc effectivement du grand couturier, et surtout l'extraordinaire série London Spy avec Charlotte Rampling et Ben Whishaw. Bref, on est quand même là avec un auteur qui a de la gueule. Dans le casting, c'est pas mal non plus. Les filles, vous avez dû vous pâmer quand même pour Richard Gere, comme nous disait Marie-Annie Crimbaud, il a de beau reste, notre réalisatrice. Et c'est vrai qu'il a de beau reste, mais il est accompagné merveilleusement par Helen McCrory, qui joue son épouse, qu'on a pu voir dans Peaky Blinders. Billy Hall, qui est son fils, qui est absolument génial. Et qu'on a vu dans Témoin à charge. Et là, toujours formidable, Sarah Lancashire, qu'on avait vu dans Happy Valley, entre autres, et qui est une actrice absolument formidable, donc qui joue le rôle de cette future, peut-être, première ministre très, très, très à droite. Alors, qui va commencer? Isabelle, Motherfather and Son.
Oui, non, c'est très, 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 très bien. C'est très bien interprété, les acteurs sont remarquables, c'est très bien écrit, ça parle d'un monde que personnellement je ne connais pas et que a priori j'ai pas vraiment envie de connaître, et pourtant c'est complètement passionnant de bout en bout. Ça parle de pouvoir politique, de médias, de collusion, de manipulation, de chantage, de la fin des idées progressistes au profit d'un cynisme, d'un nationalisme, d'un populisme qui font frémir, et donc c'est crapoteux, mais tout cela avec l'accent british, doigt en l'air, etc.
Ça.
Et c'est dans des décors absolument hallucinants de cages de verre, d'immeubles de verre, avec un monde d'en haut, un monde d'en bas. C'est constamment
les bureaux du quotidien où effectivement tout le monde travaille.
Donc c'est remarquablement fait. Je trouve qu'il y a, alors je sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'intrigues secondaires un peu dispensables. Moi je trouve qu'il y a justement des choses assez casse-gueule dans le scénario qui fonctionnent extrêmement bien. C'est-à-dire que cette histoire de l'accident cérébral du fiston qui du coup a une deuxième chance pourrait refaire puisqu'il doit tout réapprendre et les comme un bébé, pourrait refaire les choses autrement et mieux. Je trouve ça assez à l'emporte-pièce et tout, a priori. Et je trouve que dans l'écriture, dans le jeu, dans les rebondissements de ce qu'ils en font jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je trouve que la mère, qui donc a quitté le giron pour se retrouver à être plus ou moins bénévole dans un endroit où il y a des gens qui se sont scratchés complètement socialement, elle a une histoire avec un homme qui effectivement est tombé de très très haut, et cette histoire où on se dit oh là là mais quelle drôle d'idée, etc., je trouve que ça fonctionne formidablement parce que cet homme là aussi lui ouvre un monde qu'elle ne connaît pas et lui permet d'accéder à son fils par rapport à l'addiction et tout ça. Donc il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes, et quand vous dites que c'est un auteur, oui, je pense qu'il y a quelque chose de littéraire mais qui passe très très bien à l'image parce que c'est incarné par des acteurs qui sont absolument prodigieux. Et qui, moi, j'ai pas de passion, j'ai jamais eu de passion pour Richard Gere, et je dois dire que je le trouve absolument incroyable par rapport aux... Les autres sont très très bien, mais que je les connaissais moins, et je n'attendais rien de Richard Gere, contrairement à ce que vous avez l'air de penser. Et c'est vraiment étonnant.
Le plaisir des yeux, parfois, Charlotte
Pascal. Bah oui, je suis d'accord, c'est vraiment la grande série à voir en ce moment. Il y a quelques semaines, je vous avais partagé mon coup de cœur pour la série Succession, et là, on est quand même dans une série très voisine de celle-là, à savoir la chronique familiale avec ses accents shakespeariens, puisqu'il est question de pouvoir, de transmission, de culpabilité, de rédemption ou pas. C'est un peu comme une version resserrée de Succession. Alors là où je rejoins Isabelle, c'est que moi, Richard Gere, a priori, en père manipulateur, en lobbyiste, redoutable et faiseur de rois, j'y croyais qu'à moitié sur le papier, mais alors il suffit de 3 scènes pour qu'il me glace le sang. Il est véritablement...
Sans aussi le ton, il n'y a rien. Il y a un travail d'acteur qui est remarquable.
D'autorité naturelle qui est assez dingue. Et donc sur la forme, tous les acteurs sont prodigieux, Isabelle le disait, je trouve la réalisation très soignée, elle est élégante, elle est même assez stylée, des dialogues mais alors aux petits oignons. Et sur le fond, la série est, je trouve, même les moments où elle est le plus puissante, c'est quand elle se resserre sur ce trio familial des parents et du fils, avec la dimension oedipienne que prennent toutes les paroles et les actes. Et c'est terrible ce qu'ils vont se dire ou se faire les uns aux autres. l'autre. Il y a une complexité des rapports familiaux et une complexité de même de l'âme humaine, tout simplement, qui est remarquablement bien écrite et partagée avec nous. Et puis après, toute la toile de fond de la série sur ce contexte médiatico-politique. Effectivement, Xavier, je vous rejoins un peu, il y a des moments, c'est presque un peu beaucoup, c'est-à-dire entre pointer les dangers de la presse populiste, les rapports toxiques qu'entretiennent la presse et le pouvoir avec une campagne électorale. Enfin bon, il y a beaucoup de thèmes sociaux qui sont abordés, c'est peut-être un poil too much, mais finalement pas tant que ça, tellement la série nous tient en haleine, mais vraiment en haleine sur les 8 épisodes jusqu'à l'épisode final qui est d'un cynisme absolument redoutable. Si on pouvait croindre le moindre mélo, naïveté ou un peu de pathos, mais alors c'est balayé en 3 répliques.
Ah oui. Personne ne s'effondre en demandant pardon.
Ah,
c'est
non,
jamais. C'est vraiment Shakespeare et je suis d'accord avec vous sur l'autorité de Richard Gere. J'ai d'ailleurs essayé d'adopter un tout petit peu ce principe d'autorité.
Allez-y.
Tranquille, souple, mais qui n'admet aucune contestation, n'est-ce pas, Benoît? Vous avez deux minutes pour nous parler
court,
de la série. Voilà, vous avez très bien compris mon message.
Non, mais tout ce qui a été dit juste là est très juste. Parce que Charlotte citait Succession, pour ceux qui ont vraiment aimé Succession, alors allez-y les yeux fermés. Non, pas quand même, parce que sinon on ne peut pas regarder la télé. Non, mais... Non mais allez-y vraiment. Je trouve que c'est même beaucoup mieux que Succession.
Hop, attention, attention, Benoît.
Je trouve que c'est beaucoup mieux.
On se calme, petit bonhomme.
Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que Succession n'est pas bien. Hein.
Non.
Je trouve que c'est beaucoup mieux parce que Succession jouait complètement sur la façon dont la télévision dite entre guillemets, hein, avec moi, c'est toujours entre guillemets intelligente.
Ce qui à la radio est très pratique.
Non, mais du câble qui rejoue un petit peu le soap familial shakespearien à la Dallas et Dynasty, mais façon haut de gamme pour public cultivé, etc., etc. Et sauf que souvent, ça restait piégé là-dedans. La force de Mother Fatherson, c'est que, et justement, de par toutes les trames qui se rajoutent autour du monde médiatique, du monde politique, fait que cette histoire englobe quelque chose de beaucoup plus large que cette simple histoire de famille. Juste un exemple pour vous montrer que ça fonctionne presque à l'inverse des soaps. C'est-à-dire que dans tous les soaps, en général, le père meurt, ou le père a l'accident. Et que c'est à partir de l'accident du père que tout va se raconter. Là, c'est l'inverse. C'est le fils qui a l'accident. Et à partir de l'accident du fils, on raconte l'histoire du père et de tous les autres autour. Et je trouve que rien que cette idée-là fait et signe que la série est vraiment une très grande série.
Enfin, les enfants qui payent pour les péchés des pères, quand même, c'est aussi dans toutes les tragédies. Et c'est
oui, mais dans les
sopes. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et vous avez fait court. Donc c'est un petit miracle. Merci beaucoup, Benoît Lagan. Isabelle Danel, lève le doigt. Pour les toilettes, c'est à droite en sortant à gauche. Non, vous vouliez nous dire quelque chose?
Oui, je voulais juste ajouter, je suis pas folle des flashbacks dans la série, mais il y a quelque chose que je trouvais extraordinaire. Il y a quelque chose qui revient tout le temps, ce sont des dossiers en carton avec une petite ficelle et un petit œillet dans lequel il y a tous les dossiers à charge, toutes les violences que ces gens récupèrent pour faire chanter un certain nombre de gens. Et je trouve que dans ce monde d'internet, on copie, on regarde, on écoute, etc., qu'il y ait récurrence de ces dossiers dans lesquels on ne sait pas ce qu'il y a mais on imagine le pire, je trouve ça extrêmement joli parce que ça dit quelque chose aussi d'une éternité de façon de fonctionner, puisqu'il y a aussi le père de Max qui entre en jeu dans l'histoire.
Je suis obligé d'interrompre votre enthousiasme, mais il a été très communicatif. Mother, Father, Son sur Starzplay, et évidemment, on vous le recommande de façon très chaleureuse. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool?
crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
Daddy Cool, et merci à Muriel Pérez d'avoir eu l'idée d'opposer à ce père vampirique et destructeur dont nous venons de parler, la coolitude absolue de Papa Daddy Cool. C'était Bonhomme, bien évidemment, vous l'aviez tous reconnu.
France Inter, une heure en série.
Et c'est le moment où je vous recommande une petite pépite inédite, pas encore diffusée en France. Normalement, ça devrait arriver très rapidement. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est que sur la BBC depuis le 9 février. Une mini-série en 2 épisodes intitulée The Pale Horse. Et les fans d'Agatha Christie auront reconnu bien évidemment le titre d'un des romans de la Reine du Crime. C'est surtout pour moi l'occasion de vous parler de Sarah Phelps, que nous avions évoqué lors de notre débat sur Dublin Murders, et qui est à mon sens vraiment aujourd'hui la meilleure adaptatrice justement des romans d'Agatha Christie. On lui doit un remarquable Dix Nègres qui avait été diffusé sur TF1, si mes souvenirs sont bons, un ABC contre Poirot limite nihiliste, et surtout un Magistral Témoin Indésirable qui avait été tous deux diffusés sur Canal+. Voilà. Sarah Phelps ne se contente pas de dialoguer les romans de Dame Christie sans les dénaturer, elle les réinvente, elle accentue les dimensions sociales et sociétales des livres d'origine en reprenant à son compte l'un des romans peut-être les moins aboutis d'Agatha Christie, sorti en 61, donc Pale Horse, Le Cheval Pâle, mélange de woodenite et d'intrigue paranormale, elle réussit une fois de plus à nous époustoufler. Nous sommes au milieu des années 60, on retrouve sur le corps d'une femme morte dans les quartiers défavorisés de Londres une liste de noms sur laquelle figure le nom du héros infortuné de cette histoire, un homme d'affaires en vue. Les autres personnes citées le touchent parfois de très près et constituent très rapidement une autre liste autrement plus macabre, celle de gens récemment décédés apparemment. En tout cas du moins, de mort naturelle. Son enquête va le mener dans un village où vivent 3 étranges diseuses de bonne aventure. Mais la série parle surtout des violentes iniquités sociales qui règnent dans l'Angleterre des années 60, de la condition de la femme et des épouses du milieu bourgeois, de la déliquescence justement de cette classe dite supérieure. Sarah Phelps déterre les vieux démons et fantômes d'une Angleterre en train d'étouffer sous le poids de ses conventions. C'est à la fois brillant et ténébreux, rapidement en France je l'imagine. Mais en tout cas pour l'instant sur la BBC One, The Pale Horse. Et c'est l'heure du plateau télé. Petite recommandation avant de nous quitter. Isabelle, vous avez envie de nous parler de Homecoming.
Ah oui, très envie de vous parler de Homecoming. C'est sur Amazon Prime. La série date de 2018. 10 épisodes, assez courts puisque c'est entre 26 et 30 minutes à chaque fois. Ça se passe dans un centre qui ressemble à un hôpital en mieux, dans un décor qui ressemble à la Floride en moins bien. La confrontation entre une psy, Heidi Bergman, interprétée par Julia Roberts, et de jeunes soldats revenus d'une guerre qui ne dit pas son nom, mais dont l'horreur est palpable. Elle se lie avec un jeune homme en particulier, Walter Cruz, qui allaiterait de l'excellent Stephen James, de La couleur de la victoire et de Sybil Street pouvait parler. Et peu à peu, elle comprend que le traitement médical réservé aux soldats est extrêmement douteux. La série joue entre 2 temporalités, 2 formats d'écran, puisque le passé est en écran large et le présent en format carré. Ce qui est bizarre, c'est qu'au présent, Heidi n'est plus psy mais serveuse et que visitée et interrogée par un fonctionnaire zélé de l'armée qui essaye de comprendre ce qui s'est passé quelques années auparavant, elle ne se souvient de rien. C'est superbement écrit par Mika Blomberg et Eli Horowitz. La mise en scène est signée Sam Esmail, Mr. Robot.
Une référence.
Et c'est d'une subtilité, d'une ambiguïté constante. On comprend tout, même ce qu'on ne comprend pas. On est ferré, happé, fasciné, inquiet aussi de ce qui se trame dans ce lieu dont les soldats ne peuvent pas sortir et où, se doute-t-on, une expérience peu avouable est en cours, mais laquelle ? Il y a des seconds rôles étonnants. Sissy Spacek qui joue la mère quelque peu désagréable de Heidi, et on entend même la musique de Carrie au moment où elle apparaît alors qu'elle est assise dans un canapé en train de regarder la télévision.
Joli mais clin d'œil, bien
elle
repéré,
fait peur
Isabelle.
Tout de suite. Et donc, il y a Bobby Cannavale aussi qui campe un patron improbable. Et il y a Julia Roberts. Et est-ce utile de préciser qu'elle est parfaite, délicate, incarnée, avec cet air de présence-absence dans la partie contemporaine qui trouble et envoûte, avec ce je ne sais quoi de décalé qui rend la versatilité de son personnage aussi séduisante qu'intrigante. C'est une série qu'on ne lâche pas et qui ne nous lâche pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une saison 2 arriverait en 2020. Amazon Prime Video Homecoming.
Merci Isabelle Prieré. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'arrivera pas à rire pendant cette série. Julia Roberts, qui est quand même sa marque de fabrique, et ça va nous reposer un tout petit peu.
Oui, vous êtes vilain.
C'est comme ça. Mais j'en ai marre qu'elle nous montre ses dents en éclatant de rire à chaque film. Voilà. Je sais. Benoît,
oui.
Vous ne parlez pas de série aujourd'hui, en tout cas pas de façon directe, voilà. Mais vous allez évoquer un documentaire signé par notre confrère Olivier Joyard.
Oui, Israël Terre de Série, un documentaire disponible donc sur Canal+, en ce moment, et qui accompagne un cycle que Canal consacre aux séries israéliennes.
On a parlé d'Our Boys
voilà,
récemment, programmé dans ce contexte.
Voilà, et donc ce qui est intéressant avec Olivier Joyard, c'est qu'il fait depuis plusieurs années maintenant des documentaires assez réguliers en série, sur les séries. J'avais beaucoup aimé son documentaire sur les génériques, beaucoup apprécié son documentaire sur les fins de série, où il avait même réussi à me faire pleurer comme on pleure à une fin de série à la fin de son documentaire, c'est dire. Et là, donc, ce qui est intéressant avec le travail d'Olivier Joyard sur Israël, c'est que il essaie de percer un mystère. Mais pourquoi donc les séries israéliennes marchent autant, et surtout pour quelles raisons une série sur quatre produite et inventée en Israël est adaptée à l'étranger. Et donc tout le documentaire commence comme ça, sur mais pourquoi donc ? Et alors il nous révèle avec des entretiens pourquoi en fait les séries si israéliennes traitent des thématiques aussi si universelles qui peuvent donc s'adapter facilement, comment Israël a préparé le terrain pour en faire un vrai business. Il n'y a pas de honte à vendre leur concept et à les voir adaptés dans 20 pays comme par exemple pour In Treatment, hein, la série en analyse. Donc ça c'est extrêmement bien montré dans le film. Et puis plus il avance, plus il nous montre aussi les sujets purement israéliens, et notamment cet entretien avec Hagai Levy, donc créateur de Our Boys, qui explique en quoi les séries israéliennes sont des séries qui parlent sans cesse de frontières parce qu'il n'y en a pas en Israël, et comment aussi ces séries parlent des frontières psychologiques.
Elles arrivent avec Trump, voilà. Elles arrivent.
Et des frontières psychologiques entre les personnages. Ce qui explique aussi pourquoi les séries israéliennes, au-delà des problèmes géopolitiques, traitent aussi fondamentalement de l'âme et du plus profond des humains, ce qui rend toutes ces séries si universelles. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce documentaire Israël Terre de Série, signé Olivier Joyard sur Canal+, en ce moment.
Vous nous avez donné très envie en tout cas. Voilà, une heure en série, c'est fini pour cette semaine. Merci Charlotte Lipinska, merci Isabelle Danel et merci Benoît Lagan d'avoir brillamment débattu autour des séries de la semaine. On va rappeler justement quelles étaient ces séries. Reckoning sur 13e rue, Mirage sur France 2 et Mother, Father, Son sur Starzplay. La semaine prochaine, au menu, Amour fou sur Arte et Hunters sur Amazon Prime. N'oubliez pas de nous réécouter en podcast si vous avez envie, voilà, d'affiner votre écoute de l'émission, de réécouter les épisodes précédents, bien évidemment. Et si vous avez envie de voter pour le top 10 des auditeurs, eh bien, vous pouvez également aller sur le site et voter pour votre série française et votre série non française préférée. Voilà, merci à toutes et merci à tous. Merci en particulier à Marie-Annick Rimbaud qui a réalisé l'émission. Merci à Muriel Pérez qui en a assuré la programmation musicale. Et merci à Emma Ferré de m'avoir aidé à préparer cette émission à la technique cette semaine. Mathias Alléon. Et j'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe du Masque et la Plume demain soir pour le prix des auditeurs.